diffusée tous les jours de 9h59 à 11h. Du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec ce matin Vincent René à la technique, et préparés par Mathilde Unger, Geneviève Méric, François Salmeron, Géraldine Mosna-Savoie, Adèle Van Rett. Adèle qui vous donne rendez-vous comme tous les jours vers 10h50, donc tout à l'heure, pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle recevra aujourd'hui Donatien Gros, qui viendra parler de tragédie. C'est la suite, ce mardi, d'une semaine sur l'utilitarisme dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après avoir parlé de Bentham hier, et pour cause, avant de parler demain d'éthique animale, c'est John Stuart Mill, le démocrate, libéral, utopique, on va voir, ou utopiste en tout cas, John Stuart Mill, dont le philosophe Jean-Pierre Clairaut vient aujourd'hui nous parler.
Croire que l'être supérieur, dans des circonstances qui seraient équivalentes à tous égards pour l'un et pour l'autre, n'est pas plus heureux que l'être inférieur, c'est confondre les deux idées très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites, tandis qu'un être d'aspiration élevée sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à supporter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur, pour peu que celle-ci soit supportable. Et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections, mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ces imperfections sont attachées. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait.
C'est pas moi qui fais ça.
Non, c'est rien.
Bonjour Jean-Pierre Clairaut.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. De nouveau, c'est un plaisir de vous accueillir pour prolonger avec vous cette semaine de travail, de réflexion, d'approfondissement des paradoxes utilitaristes. C'est de John Stuart Mill qu'on va parler aujourd'hui. L'utilitarisme, c'est un livre de John Stuart Mill, assez bref, disponible en Garnier Flammarion par exemple, et qui a le mérite effectivement de résumer la thèse utilitariste, tout en se distinguant des propos de Bentham. On va revenir sur tous les enjeux historiques, l'histoire des idées, au fond.
C'est un livre qu'il a écrit vers la fin de sa vie, en 1863, et il meurt en 67.
Grand mérite d'une synthèse. On va revenir dessus. Avant cela, un point, le texte ici, peut-être le texte le plus fameux, et à bon droit d'ailleurs, de ce livre. Il vaut mieux être, dit Mill, un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Et si, ajoute Mill, l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. Alors, avant d'évoquer, de rentrer dans la lettre de ce texte, juste un point. Demain, nous parlerons de Singer, dans les Nouveaux Chemins. Singer qui dit « La préoccupation pour le bien-être des cochons peut ne rien impliquer d'autre que de les laisser en compagnie d'autres cochons dans un endroit où il y a une nourriture suffisante et de l'espace pour courir librement. » On a le sentiment qu'il y a une espèce de tropisme du cochon ou du porc à l'intérieur de la pensée utilitariste. À quoi tient cette dilection toute particulière pour les pourceaux ?
Oui, il y a un philosophème du cochon qui a l'air de courir tout le long de l'utilitarisme. Bah, le cochon, c'est bien, c'est le symbole du plaisir vulgaire. Bon. Alors, ce qu'essaye de montrer Stuart Mill, à l'encontre, en apparence, de ce que disait Bentham, c'est qu'il existe des plaisirs différents. Il y a des plaisirs qui valent mieux que d'autres. Et d'une certaine façon, il se range du côté de Socrate. Il le dit d'ailleurs nettement. Il y a évidemment une allusion très très nette au Philèbe, puisque Socrate distingue des catégories de plaisirs dans le Philèbe en disant qu'il y en a qui certains plaisirs valent mieux que d'autres, et il laisse de côté Protarque qui, d'une certaine manière, lui défend la thèse adverse en disant que dès qu'un plaisir est plaisir, eh bien c'est tout, il a une valeur comme telle. Hein. Peu importe, d'une certaine façon, qu'il soit intellectuel ou pas, le problème n'est pas là, il est plaisir. Bon. Alors que chez Stuart Mill, on va avoir la notion de valeur qui va apparaître, et il pense que c'est par là qu'il se démarque très nettement, enfin c'est un des points de démarcation très net avec ce qui se passait chez Bentham.
Pour le dire autrement, il y a l'introduction d'un élément qualitatif dans une arithmétique du plaisir et de la peine.
C'est ça. C'est-à-dire que, alors que tout le projet de Bentham, c'était de faire en sorte que les plaisirs puissent être commensurables d'une certaine façon.
Et c'est-à-dire comparables les uns aux
autres. Comparables les uns aux autres et qu'on puisse faire des calculs. Et ramener d'une certaine façon tous les plaisirs les uns aux autres et faire des sortes de balances entre des déplaisirs et des plaisirs. Eh bien, l'idée choque d'une certaine façon Stuart Mill et il essaye de rectifier d'une certaine façon cette idée en réinjectant dans le système quelque chose qui tiendrait compte de valeur. Il y aurait des plaisirs qui valent mieux que d'autres et l'intellectuel, à ses yeux, serait le mieux placé pour les saisir, puisque l'intellectuel peut lire Spinoza, il peut lire Bentham, mais il peut aussi connaître les autres plaisirs.
Restons sur Spinoza un instant. Hier, on a commencé l'émission en évoquant la fin de la préface de la troisième partie de l'éthique, dans laquelle Spinoza se propose de traiter les passions humaines comme s'il était question de lignes, de plans et de corps.
Oui.
Phrase qu'on lui a bien reprochée, très mal comprise d'ailleurs.
Très
en général,
mal comprise. Il ne dit pas que ce sont des lignes, des plans, etc. Il dit comme si. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de calculer, il s'agit de faire des mathématiques des passions. Hein. Et les utilitaristes ont toujours eu ce même souci.
Mais ce faisant, Spinoza se donne les moyens de ne pas exclure une passion, de ne pas recouvrir une passion d'un anathème qui permet de dire c'est monstrueux, on n'y pense pas, on n'en parle pas, ce qui est une façon de ménager sa résurrection, justement. Alors, pour Spinoza, l'enjeu, en un sens, est celui-là. On s'est demandé hier si ça s'appliquait à Bentham, à plus forte raison. Est-ce que, pour le coup, Mill ne s'en distingue pas ouvertement en introduisant un élément non quantifiable dans l'arithmétique des passions ?
C'est ça. Il faut peut-être bien regarder la différence qu'il y a entre Bentham et Stuart Mill sur ce point-là. Chez Bentham, les passions ne sont que des signifiés assez vaporeux, de signifiants qui sont beaucoup plus essentiels. Les passions ne comptent pas, d'une certaine façon. Elles sont des symptômes de quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui scande beaucoup plus intensément le corps, la communauté, le corps politique, la société civile.
Les passions, c'est l'écume de l'utile.
C'est un peu l'écume de l'utile, on pourrait dire ça très bien. Parce que là, ça permet, d'une certaine façon, d'avoir des symptômes sur ce qui est véritablement utile, mais il ne faut pas les croire. C'est-à-dire qu'au moins l'intellectuel, le législateur, le juge n'a pas à croire ces passions. Il regarde quelle est la réalité, quelles sont les entités réelles, si j'ose dire. C'est ça qui compte. Et du coup, les passions, ben, il vaut mieux les traiter comme des notions assez évanescentes. Chez Stuart Mill, la chose est un peu différente. D'ailleurs, peut-être a-t-il très très mal compris Bentham sur ce point.
Il faut s'en réjouir d'ailleurs, parce que ça donne de l'utilitarisme une autre version.
Ça donne une autre dimension, pour le meilleur et pour le pire, on va dire. Parce que ce qu'il essaye de voir, c'est que il essaye de réinstaurer cette notion de qualité, cette notion de valeur, qu'il estime être perdue par Bentham. Bon. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas exactement le cas. Ce que veut faire Bentham, c'est une sorte de genèse des valeurs. Il essaye de montrer comment, avec des matériaux qui sont du style de l'intérêt, de la tendance, etc., on peut fabriquer quelque chose qui a l'allure de valeurs. C'est un discours qui ne convainc pas Stuart Mill. Il pense d'une certaine façon que les valeurs ont tout de même si on peut admettre cette genèse, elles ont une espèce de résistance par rapport à cette genèse.
Une consistance, il y a une consistance propre aux passions humaines.
D'où la référence à Socrate et à Platon, qu'il a pris très au sérieux. C'est quelqu'un qui a traduit un certain nombre de dialogues de Platon. Il oppose Socrate aux sophistes, Platon lui-même aux sophistes, tout en étant d'ailleurs, il a lu Grote là-dessus et il sait que c'est une affaire assez compliquée. Mais il y a tout de même, il prend son camp, hein, si j'ose dire. Son camp, c'est le camp socratique. C'est-à-dire un camp qui admet d'une certaine façon que il existe des plaisirs qui valent mieux que d'autres, qu'il y a des conduites qui valent mieux que d'autres, et en soi, c'est-à-dire pas seulement par confrontation avec d'autres conduites, hein, pas seulement par confrontation avec d'autres plaisirs et d'autres douleurs, mais par eux-mêmes, ces plaisirs vaudraient mieux. Parce qu'il faut faire très attention à ce point. Chez Bentham, au fond, l'idée, c'est que... non, peut-être que tous les plaisirs se valent. Dès que quelqu'un estime avoir un plaisir, on ne va pas lui retirer ce discours-là. Il a le droit de penser que ce plaisir est son plaisir. Et d'une certaine façon, ce plaisir a de la valeur, quel qu'il soit. Mais... évidemment, ce plaisir déclenche éventuellement des déplaisirs qui vont être plus essentiels, plus lourds, plus sur la balance, qui vont peser plus lourd que son propre plaisir. Et par conséquent, ils seront niés, ils seront déconsidérés pour cette raison même. C'est-à-dire, ils sont pas, on ne discute pas de la question de la morale ou pas. Un plaisir est plaisir, encore une fois, il n'y a pas à moraliser là-dessus. Bon. Mais... il y a des plaisirs qui sont tolérables dans une société et d'autres qui ne le sont pas, parce qu'ils déclenchent plus de souffrance.
Vous avez parlé du camp platonicien de Stuart Mill, ou socratico-platonicien. Oui, c'est aussi le camp nietzschéen, puisque Nietzsche s'interroge, l'une des grandes valeurs ajoutées de l'immense Nietzsche, on va voir à quel point d'ailleurs il est immense là, et à quel point il peut être adapté à bien des systèmes. L'immense Nietzsche pose constamment la question de la valeur des valeurs. Évidemment, le mot de valeur est à prendre en deux sens différents. La valeur des valeurs, on pourrait traduire ça en disant, en termes nietzschéens, que vaut ce qui n'a qu'un prix, par exemple. Oui, oui. Quelle est la valeur de ce qui n'a qu'un prix? Dans le même temps, Nietzsche est celui qui, comme Bentham en un sens, fait la généalogie de nos passions, l'usine à gaz où nos passions trouvent à surgir et à se prendre pour elles-mêmes et pour des entités close, l'usine à gaz est en réalité mise en évidence par Nietzsche, la petite cuisine de nos valeurs absolues. Nietzsche en fait son beurre dans la généalogie de la morale. Et enfin, c'est le même Nietzsche qui met les utilitaristes souvent dans un même panier en les traitant de crapauds, de monstres froids ou de crapules.
Oui, oui, le mot est extrêmement sévère. C'est à peu près le mot... Stuart Mill est quand même plus mesuré, mais il est extrêmement brutal à l'égard de Bentham, sur ce point-là. Il a le sentiment que, notamment ce texte qui s'appelle « Les ressorts de l'action », les « Springs of Action », œuvre dans laquelle Bentham essayait en quelque sorte de reconstituer ce qui structure véritablement l'activité humaine, eh bien, c'est un texte qui a été absolument honni par Stuart Mill. Il pense que c'est un texte qui, en quelque sorte, réduit l'humanité, qui est abject par quelque côté, écrit par un ignorant d'une certaine façon. Bref, le rendez-vous ne se fait pas. Alors là, on voit que, alors que Nietzsche sait ce que c'est qu'une généalogie, il sait ce que c'est qu'une genèse, il préconise en même temps, bien sûr, la notion de valeur, qui n'est pas rien pour lui. Chez Stuart Mill, vous avez un beau ratage là, sur ce point. C'est-à-dire qu'il paraît ne pas voir quelle est la signification exacte du benthamisme, qui est non pas de dire que l'homme a simplement un prix. D'ailleurs, il s'en explique très très bien dans l'introduction au principe de la morale et de la législation.
En général, je fais une parenthèse, en général, Bentham est vu par ceux qui ne l'ont jamais lu comme un homme qui pense avec une calculatrice.
Oui, oui, ce n'est pas faux d'ailleurs, mais à condition de bien voir ce que disait très très bien Emmanuel de Champs hier, c'est-à-dire que c'est une méthode. Si on veut véritablement qu'une société puisse s'organiser, aux yeux de Bentham, il faut d'abord réduire tout ce qui est passion, tout ce qui est intérêt, à un jeu de plaisir et de douleur, reconstituer ce jeu de plaisir et de douleur, et puis essayer de constituer donc les lois, les institutions, éventuellement de les bouger, de les adapter constamment à cette espèce de jeu inlassable de plaisir et de douleur, puisque jamais aucune loi ne restera ce qu'elle est toujours, et ni aucune institution, bien entendu.
Alors, on va entendre tout de suite un texte de Tocqueville, extrait de La démocratie en Amérique. C'est un texte dans lequel Tocqueville distingue le pauvre du riche autour du modèle de la passion du bien-être matériel. Et il est intéressant d'observer que Tocqueville, en critique qu'il est de la démocratie, c'est-à-dire en vrai démocrate qu'il est, en démocrate critique qu'il est, s'en prend aux passions qui surgissent avec l'égalité et l'égalitarisme qui accompagnent l'avènement des démocraties. On va voir dans quelle mesure le problème que pose Tocqueville s'applique aux questions des utilitaristes. Écoutez.
La passion du bien-être matériel n'est pas toujours exclusive, mais elle est générale. Si tous ne l'éprouvent point de la même manière, tous la ressentent. Le soin de satisfaire les moindres besoins du corps et de pourvoir aux petites commodités de la vie y préoccupe universellement les esprits. Quand les richesses sont fixées héréditairement dans les mêmes familles, on voit un grand nombre d'hommes qui jouissent du bien-être matériel sans ressentir le goût exclusif du bien-être. Ce qui attache le plus vivement le cœur humain, ce n'est point la possession paisible d'un objet précieux, c'est le désir imparfaitement satisfait de le posséder et la crainte incessante de le perdre. Lorsque les rangs sont confondus et les privilèges détruits, quand les patrimoines se divisent et que la lumière et la liberté se répandent, l'envie d'acquérir le bien-être se présente à l'imagination du pauvre et la crainte de le perdre à l'esprit du riche.
Quand les richesses sont fixées héréditairement dans les mêmes familles, on voit un grand nombre d'hommes qui jouissent du bien-être matériel sans ressentir le goût exclusif du bien-être. En d'autres termes, en aristocratie, dans un système héréditaire, on a le confort matériel, mais le confort matériel n'est pas une fin en soi. Avec la démocratie et l'individualisme qui s'accompagnent, qui accompagnent l'avènement d'un régime démocratique, se pose le problème d'un individu qui, devenant à lui-même sa propre fin, désire le bien-être comme seul but de son existence. Est-ce que de ce point de vue, l'utilitarisme n'est pas typiquement une pensée pourtant démocratique, Jean-Pierre Clairaut ?
Oui, ça, je pense qu'il faut dire cela. D'autant que on voit très bien l'évolution, par exemple, de Bentham. Cette évolution de Bentham s'est faite à partir de positions hiumiennes. Il est hiumien dans sa jeunesse. C'est un aristocrate et il ne croit pas du tout à la démocratie. Mais le principe d'utilité va quasiment le contraindre à des positions de plus en plus égalitaires. Alors, il ne s'agit pas de les forcer, ces positions égalitaires. Il ne s'agit pas de faire l'égalité pour demain. Il n'y croit pas plus que Hume. Mais il pense, en revanche, que le principe d'utilité par lui-même, cette friction, ce jeu permanent de plaisir et de douleur, va faire que, d'une certaine façon, les inégalités économiques vont se réduire. Bon, il pense d'une certaine façon qu'on va vers une sorte de classe moyenne assez pléthorique, assez considérable, qui va en quelque sorte accaparer le maximum de richesses, laissant de côté le petit nombre. Alors que justement, chez Stuart Mill, on a une critique de ça. Il y a déjà une crainte qui peut venir d'ailleurs, qui a été exprimée certes par Tocqueville excellemment, on vient de le voir, mais aussi par Benjamin Constant sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on se demande si cette démocratie qui est en marche, on a l'impression qu'elle fait partie des signifiants de l'époque, on ne pourra pas arrêter ce mouvement démocratique. Eh bien, il a l'impression que cette démocratie peut apporter, confond bien sûr les rangs, a tendance d'une certaine façon à fabriquer les individus en une sorte de somme de masse assez confuse, et on va perdre d'une certaine façon avec cette démocratie tout ce qui vaut, tous les plaisirs qui peuvent d'une certaine façon distinguer les individus les uns des autres.
Mais c'est ça le mot-clé, Jean-Pierre Clairaut, pardon, c'est la distinction, voilà. En l'occurrence, qu'il faut entendre à tous égards et dans tous les sens. Voilà. Être distingué, se distinguer des autres et se distinguer en nature des autres. Un point, la question de la commensurabilité, c'est-à-dire le fait d'appliquer finalement aux passions humaines, aux natures humaines, aux rapports humains, à la vie en société, des rapports commensurables, une grille de lecture qui soit la même pour tous, un dénominateur commun, à quelque chose d'extrêmement antipathique, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que le premier dénominateur commun, c'est l'argent. Donc il y a quelque chose d'extrêmement antipathique à le faire. Et dans le même temps, ceux qui critiquent cela, en parlant ensuite d'uniformisation, de règne de l'argent, à la limite presque de marchandisation de l'humain, ceux qui font la critique de ça oublie bien souvent qu'une telle critique est une critique teintée d'aristocratisme. Cette critique est pertinente, mais elle est teintée d'aristocratisme, Jean-Pierre Clairaut.
C'est effectivement un grand danger. On peut d'ailleurs se demander si Stuart Mill n'a pas conservé dans ses attitudes politiques un certain aristocratisme. Mais je crois qu'il faut tout de même corriger un point sur ce que vous disiez, insister peut-être sur un point. Il faut faire très attention à dire simplement que l'utilitarisme serait une certaine manière de mercantiliser les rapports, de faire en sorte que tous les rapports puissent être en quelque sorte ramenés à des échanges d'argent.
Je le dis parce que c'est ce qu'on en pense.
C'est ce qu'on en pense, mais je veux dire que c'est, comme le disait très bien Emmanuel de Champ-Hier, c'est une méthode. C'est une façon de ramener, d'une certaine façon, les diverses valeurs qui qui sont différentes les unes des autres, qui peuvent même être relativement hétérogènes, à une sorte de dénominateur commun qui donc peut être très facilement enregistré par l'argent. Alors, bien entendu, chez Stuart Mill, vous avez une crainte de ce point de vue. Est-ce que ce marché qui est en train de se constituer ne va pas, en quelque sorte, éliminer toute espèce de singularité dans les valeurs. Et l'idée de Stuart Mill, c'est évidemment de promouvoir, au contraire, cet individualisme jusqu'à l'excentricité. Le mot est dans le texte, il dit que chacun a le devoir, en quelque sorte, d'être excentrique. C'est-à-dire qu'il faut occuper dans l'espace social, des positions que personne ne va prendre. Il faut être différent d'une certaine façon.
Mais l'excentricité se mesure-t-elle à l'intérieur de l'espace social comme celui qui est différent ? Par exemple, la figure de quelqu'un qui, par le haut ou par le bas, choisirait de se situer en marge de la société et donc, par là même, continuerait de se définir par rapport à elle ? Ou bien est-ce que chez Mill, l'élément qualitatif dont nous parlons depuis le début, qui culmine donc avec la notion d'excentricité, prend la forme de ce que Bergson appellerait par exemple une sorte de moi profond ou bien d'éléments non quantifiables de l'existence, le caractère non mesurable des passions. Au fond, chez Bergson, l'excentricité est l'apanage de tout humain dans la mesure où tout humain est également le dépositaire comme un grand secret de quelque chose qui ne peut pas se soumettre à l'arithmétique collective.
Bien sûr. C'est d'ailleurs en même temps un problème, ce que vous êtes en train de décrire. Il y a chez Stuart Mill l'idée que chaque homme doit devenir un moi, doit devenir un individu. Chez Bentham, ça n'a vraiment pas de sens. C'est typiquement une question qui est dépourvue de sens. Bon. C'est-à-dire qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de jeu permanent de plaisir et de douleur. Est-ce qu'on peut les ramener à des centres ? Peut-être, mais ces centres sont extrêmement fluctuants. Il ne s'agit pas de dire que ces centres existent en quelque sorte en soi. Il n'y a pas quelque chose comme des moi. La notion de liberté individuelle ne pèse pas beaucoup chez Bentham. Chez Stuart Mill, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut constamment, même les politiques doivent faire en sorte de valoriser le point de vue individuel. Le point de vue individuel est extrêmement important.
À l'intérieur de la société.
À l'intérieur de la société.
Donc ce n'est pas l'individu qui par lui-même, en lui-même, s'abstrait de la société ou du régime général de la société qui fait valoir une liberté intransitive, la sienne au fond.
Il y a quelque chose comme ça chez Stuart Mill. Je pense qu'il y a tout de même l'idée d'une sorte de liberté naturelle. Il le dit de temps à autre. Une sorte de liberté naturelle. On est individu quasiment par nature. Alors bien sûr, il se reprend à certains moments, mais on a le sentiment que cette liberté individuelle est quelque chose qui vraiment s'attache complètement à chaque moi.
Pardonnez-moi Jean-Pierre Clairaut, parce que j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté ici. Peut-être que je me trompe, mais si on dit de quelqu'un qu'il est hors la loi, son attitude d'être hors la loi se définit donc par rapport à la loi. Oui. C'est une chose d'être hors la loi et donc d'être défini par rapport à la loi à laquelle on s'oppose à laquelle on contrevient. Et c'est autre chose de suivre la loi, par exemple, ou d'être hors la loi, mais de ménager en soi, non plus la loi, mais, encore une fois, l'intransitive liberté ou bien la mélodie ininterrompue d'une vie intérieure. Est-ce qu'il y a un élément de cette nature chez Mill ou est-ce qu'on est encore, malgré tout, dans un rapport à la société et à la loi et à ses lois ?
Je crois qu'on est dans le premier cas de figure. D'ailleurs, Stuart Mill s'est référé à Coleridge, il se réfère très volontiers à des écrivains du romantisme, d'une certaine façon. Alors que chez Bentham, il ne s'agit absolument pas de ça. Il aurait très bien pu, effectivement, se servir éventuellement d'écrivains romantiques. Il est mort en 1832, si je ne me trompe pas. Bon, mais il ne l'a surtout pas fait. Enfin, il méconnaît complètement ce courant. Chez Stuart Mill, non. Il y a la philosophie de Kant qui l'intéresse vivement, mais la personne, ce n'est pas exactement le moi. Une personne, c'est un artifice qu'on est en train de composer d'une certaine façon et qui, n'a pas grand-chose à voir avec l'individualité. Chez Stuart Mill, c'est l'individualité, c'est le fait de faire un écart qui va être sauvegardé par le politique et qui doit être de la responsabilité de chacun. Chacun a le devoir d'inventer sa vie, d'une certaine façon, de faire cette excentricité dont il parle.
Alors, dans le cadre, si on tient compte de cet élément, hein, se posent à partir de là deux problèmes qu'on va poser ensemble et sur lesquels on va revenir ensemble, Jean-Pierre Clairaut. La question de savoir comment on peut fonder une morale individuelle sur une psychologie égoïste ou subjective, hein, comment ça se passe, comment on passe de l'individu à la société, de ce que Spinoza appellerait l'utile propre à l'utile commun. Et puis, la question, je dois dire, redoutable, manifestement redoutable pour les utilitaristes et leurs interprètes, de savoir si on est avec l'utilitarisme dans un registre descriptif ou normatif. Ces deux questions, le passage de l'individu au général et la description à la normativité, ces deux questions sont en un sens prises en compte par le texte de Tocqueville qu'on va entendre et la chanson d'Erita Mitsuko qui suit. Écoutez.
Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Et pourtant, je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Qu'est-ce donc une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et, le plus souvent, des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité ? Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité ? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère ? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts ? Pour moi, je ne saurais le croire. Et le pouvoir de tout faire que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs.
De Tocqueville, John Stuart Mill, l'Erita Mitsuko, bienvenue sur les nouveaux chemins. Jean-Pierre Clairaut, Tocqueville dit « Qu'est-ce qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité ?» Alors c'est un texte très fameux hein, sur la tyrannie de la majorité, paradoxe tocquevillien génial de la tyrannie de la majorité, comment une majorité peut-elle être tyrannique ? Et pour penser cela, il est obligé de les penser sur le modèle d'individu. L'individu majeur, l'individu mineur, en termes quantitatifs justement. Et ce que Tocqueville permet de penser, c'est le passage utilitariste de l'individu, de la psychologie individuelle, du calcul des plaisirs et des peines à l'intérieur d'un individu, à une architecture, une architectonique globale de la société.
Il faut dire qu'il se crée lui-même la difficulté à partir du moment où vous voulez rester utilitariste et que vous croyez qu'il existe quelque chose comme des personnes, qu'il existe des moi individuels, vous créez évidemment tout de suite la difficulté. Quel est le rapport de cet individu à la société ?
Mill se pose plus de problèmes que Bentham, de ce point de vue.
Bentham ne peut pas se poser le problème. Ou plus exactement, les plaisirs, les douleurs, les passions, les intérêts désignent des centres passionnels et décisionnels constamment mobiles. C'est-à-dire, chez Bentham, on ne peut pas du tout substantifier ce type de centre.
Il y a plus de consistance ontologique chez Mill que chez Bentham, et donc de ce point de vue, plus de problèmes.
Moi, je dirais qu'il y en a plus chez Bentham que chez Mill.
Ah bon ?
Parce que, d'une certaine manière, ce que veut faire...
Il y a plus d'individus chez Mill, quand même.
Oui, il y a de l'individu. Mais,
le sujet est plus consistant
chez Mill.
Le
sujet est plus consistant chez Mill, bien entendu. Oui, oui. Je croyais que vous vouliez dire qu'il y a moins d'ontologie, d'une certaine façon, chez l'un que chez l'autre. Le souci ontologique est très profond aussi chez Bentham. Bon, il a peut-être tort de penser qu'il n'y a pas d'individu, mais ce qu'il montre, c'est que ces individus sont constamment à géométrie variable. Chaque passion, chaque intérêt, etc., modifie d'une certaine certaine façon le centre ou le sujet. Hein. Chez Stuart Mill, comme vous le soulignez, là il y a des individus. Il existe véritablement des individus. Ces individus doivent être pris en compte politiquement. Et, par exemple, Stuart Mill est tout à fait favorable au scrutin proportionnel. Il faut que chaque personne doit pouvoir donner son avis d'une certaine façon, mais cet avis n'a pas lieu d'écraser la minorité. C'est-à-dire, même s'il est majoritaire, il n'a pas à faire la loi brutale sur une minorité qu'il éteindrait complètement, qu'il empêcherait véritablement de parler.
Bon. Ça, c'est du libéralisme, Jean-Pierre Clairaut. John Stuart Mill est un libéral. Parce que l'objection libérale à l'utilitarisme, on va en parler avec Catherine Audard jeudi prochain, et on va revenir dessus, mais l'objection libérale à l'utilitarisme repose justement sur le déni de l'individu, en un sens, dans l'option utilitaire, ou utilitariste, plus exactement.
Là c'est pas le cas. Si on veut absolument qu'il y ait un déni de l'individu chez Bentham, ce qui est sans doute vrai, je veux dire, c'est pas du tout un penseur de l'individu, il n'est évidemment pas présent chez Stuart Mill, à tel point, à telle enseigne, que le pouvoir politique doit constamment s'appuyer, non pas sur un jeu de force, mais sur des opinions. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que chacun donne son opinion en politique. C'est-à-dire que c'est plutôt un théoricien de l'opinion politique plutôt que... Alors que chez Bentham, le problème ne peut pas se jouer comme ça. Le problème, l'opinion est simplement une sorte de résidu très fumeux de jeu de force qu'il s'agit en quelque sorte d'aménager. Mais vous n'avez pas ça du tout chez Stuart Mill. Il faut s'adresser à l'opinion. Chacun doit dire véritablement ce qu'il en est.
Mais alors, chez Bentham, le passage du jeu de force dont vous parlez, Jean-Pierre Clairaut, à l'architecture globale de la société, oui, se fait presque de lui-même. Chez Mill, c'est quand même beaucoup plus difficile.
Il faut quand même l'aménager. C'est-à-dire que
il faut l'aménager, mais chez Mill, restons chez Mill. Oui. Chez Mill, c'est quand même beaucoup plus difficile. Oui. C'est beaucoup plus compliqué à penser. C'est-à-dire, alors à partir de là, que vaut l'arithmétique? Que reste-t-il de l'arithmétique, voilà, des plaisirs et des peines?
Vous posez le vrai problème. C'est que reste-t-il de l'arithmétique à partir du moment où on pense, d'une certaine manière, que ce qui compte le plus, c'est ce que les gens ont en tête, c'est comment ils pensent les choses. Un réformateur aurait complètement échoué à ses yeux, il peut penser d'ailleurs à Bentham lui-même, il peut penser à Napoléon, il peut penser à toutes sortes de gens qui ont essayé de faire des réformes contre les gens. Eh bien, aux yeux de Stuart Mill, c'est un échec. C'est-à-dire qu'il faut changer véritablement les hommes. Il faut faire en sorte que les hommes puissent penser par eux-mêmes, se développer par eux-mêmes, mais on ne peut pas les forcer à un quelconque changement. Ce changement n'aurait aucune espèce de valeur.
Se pose à ce moment-là donc la question d'une morale. Et on y vient. Si c'est les hommes qu'il faut changer, puisque ça n'est plus automatique en un sens, en tout cas ça n'est plus arithmétique, si c'est les hommes qu'il faut changer pour y parvenir, quelle différence entre Mill ? En somme, est-ce qu'on est avec Mill dans une description des mœurs, des passions, un peu la façon spinoziste d'ailleurs, ou benthamienne? Ou est-ce qu'on est avec Mill dans une morale prescriptive, normative? Au fond, et c'est de là la chanson d'Erita Mitsuko, est-ce que Mill, comme Bentham en un sens, dit « c'est comme ça » ou est-ce que Mill dit « c'est comme ça que ça doit être » ou que ça devrait être?
Chez Bentham, on peut dire d'une certaine façon qu'il n'y a pas vraiment de morale. Ce n'est pas un grand penseur de la morale. Il y a des lois. Il y a des gens qui se comportent, il y a des centres de décision et passionnels qui sont constamment en train de se comporter en recherchant le maximum de plaisir, en minimisant les douleurs. Bon, mais au fond, il n'y a pas véritablement de place pour l'éthique ou pour la morale. Chez Stuart Mill, il y en a une, évidemment. Certes, il y a des lois. Ces lois doivent assurer le maximum de liberté pour les individus, pourvu qu'ils ne dérangent pas la liberté des autres. Mais il y a une place pour l'éthique, c'est-à-dire qu'il y a une place pour éventuellement une critique des comportements. On peut critiquer quelqu'un qui, en quelque sorte, se détruit, par exemple, lui-même, fume trop, boit trop, met sa vie en danger, etc. On peut le critiquer. Mais la loi ne peut, d'une certaine façon, rien faire pour lui. Je veux dire, la loi n'a pas à moraliser. Il ne faut pas du tout que la morale envahisse la loi. Il faut, exactement comme chez Bentham, démoraliser au maximum la loi. Hein, la
mais
loi
alors, pas... qu'est-ce que Mill dirait très concrètement, tiens, qu'est-ce que Mill dirait d'une disposition légale qui punirait d'une amende celui qui se nuit, ou par exemple, celui qui, le jour où il y a du givre, n'a pas de moon boots dans le coffre de sa voiture. C'est la mesure la plus social-démocrate ou la plus providentielle, si... au sens d'état-providence du monde. Qu'est-ce que Mill dirait d'une telle mesure?
Si,
à partir du moment où il introduit le respect de soi, voilà, dans l'élément de sa réflexion.
Oui. Si vous n'êtes pas, si vous ne représentez pas un danger pour les autres, eh bien, et si vous œuvrez avec un plein consentement, eh bien, la loi n'a pas à vous empêcher de faire quoi que ce soit. La loi, même chez ce puritain que devait être tout de même Stuart Mill, peut parfaitement tolérer la prostitution, par exemple. Je puis très bien consentir à vendre mon corps, pourvu que on ne m'y force pas. Si évidemment on m'y force, c'est autre chose. Là, la loi peut me protéger contre cette force. Mais le consentement suffit, d'une certaine façon, à rendre la chose légale. Mais cela n'empêchera pas, éventuellement, un philosophe de dire qu'il n'est pas forcément bien de se prostituer.
Ou de dire que sous le consentement, ou le discours du consentement, il y a une coercition véritable. Ce qui est en général l'argument pour s'en prendre, par exemple, au port du voile. Où l'on explique que mais le consentement, que Christine Boutin en matière de port du voile, fait valoir la liberté qu'ont les femmes, par exemple, d'afficher justement l'appartenance à une religion, ou bien le port du voile.
Là, vous avez l'essence du kantisme, enfin, qui vous dit que, qui sait mieux que vous ce que c'est qu'être une personne, qui d'une certaine façon installe dans votre individu les véritables valeurs, même si on dit par ailleurs qu'il y a une autonomie. Mais là, c'est pas le cas chez Stuart Mill. Là, il est resté benthamien. Il est clair que le consentement suffit de manière générale, donc vous n'avez pas, la loi ne moralise pas, ça c'est parfaitement clair, mais ça n'empêche pas le philosophe de dire d'une certaine façon que le moi n'y trouve pas son compte. Par exemple, que là, si je me prostitue, d'une certaine manière, je compromets ce moi, il ne se développe pas normalement, quoique pourquoi, après tout. Hein. Mais y a un côté un petit peu moraliste de Stuart Mill qui n'était évidemment pas chez Bentham. Bentham ne moralise jamais.
Alors, c'est évidemment ce point-là dont nous parlons. Revenons un instant au cochon du début. Du point de vue de Mill, si on réduit la morale à la recherche du plaisir, on tombe sous les accusations qu'on porte contre les épicuriens, dont les pourceaux. D'ailleurs, on a associé le pourceau à Épicure. J'en appelle à la science des auditeurs. Certainement, un auditeur nous corrigera là-dessus. Mais il me semble que si le pourceau est l'animal d'Épicure, c'est parce que sa colonne vertébrale ne lui permet pas de regarder le ciel, et non pas parce qu'il aime la fange. Il faudrait là-dessus qu'on débatte. On reviendra là-dessus. Néanmoins, du point de vue de Mill, si on réduit la morale à la recherche du plaisir, on tombe sous les accusations qu'on porte contre les épicuriens. Nos vies ne vaudraient pas plus que celles des bêtes. Et donc, il vaut mieux être Socrate malheureux qu'un porc satisfait. Très bien. Néanmoins, à partir de là, se pose un vrai problème qui est qu'il y a chez Mill l'idée qu'on refonde une morale du bonheur et pourtant que cette morale, parce qu'il est quand même utilitariste, n'est pas une morale transcendante.
Non. Il ne peut pas admettre une morale transcendante.
Oui, mais ça coince, pourtant, ça, Jean-Pierre Clairaut. Honnêtement, ça coince. En toute rigueur, ça coince.
Oui, mais c'est pour ça que je pense que Bentham est beaucoup plus conséquent, d'une certaine façon, que Stuart Mill. Stuart Mill a voulu, en quelque sorte, humaniser l'utilitarisme. Il a pensé que cette machine qu'avait fabriquée Bentham était extrêmement dangereuse. Bon. Mais il le fait en injectant des philosophies qui ne peuvent pas du tout souffrir l'utilitarisme. Donc vous avez une espèce de heurts. Qu'est-ce que c'est que cet individu qu'il est constamment en train d'évoquer? Comment il est fabriqué? D'ailleurs, lui-même serait prêt à dire qu'il est fabriqué par tout un jeu social de plaisir et de douleur. Mais comment peut-on, après avoir dit qu'il n'y avait pas en quelque sorte d'autonomie de cette valeur, comment la préconiser à nouveau comme une valeur? Est-ce qu'on est conséquent lorsque l'on fait quelque chose comme ça?
L'autre problème allez-y, oui.
Oui.
L'autre problème qui se pose, évidemment, si on prend les choses de l'autre côté, enfin sous l'autre angle, c'est la question de la différence entre l'homme et l'animal, la différence des règnes. Y a-t-il solution de continuité entre les deux règnes? Ça, c'est une question qu'on va aborder plus précisément demain, quand on parlera de Singer. Je voudrais juste avoir là-dessus et donner à entendre à nos auditeurs et à vous-même, Jean-Pierre Clairaut, le sentiment de Raymond Devos sur cette question. Écoutez.
On pourra en pousser à propos. Ben vous avez vu ce qui s'est passé à la conférence des 9 ministres agricoles à Bruxelles, la dernière conférence des 9 ministres. Les 9 ministres étaient dans la salle, ils discutaient du prix du porc. Il y a un paysan mécontent qui a fait rentrer 9 veaux. une confusion. On ne savait plus qui était qui. À la fin de la conférence, le paysan a remporté ses veaux. Dans la mêlée générale, il en a remporté 8. Il a emmené un ministre avec. On ne dit pas lequel, évidemment. Il n'y a que sur le marché qu'ils s'en sont aperçus. Au moment de vendre les veaux, il y en a un qui était invendable. Parce qu'un ministre, ça ne se vend pas. Ça s'achète parfois.
Si les sources de plaisir étaient précisément les mêmes chez les humains que chez les porcs, la règle de vie assez bonne pour les uns serait assez bonne pour les autres, c'est Mill qui parle. La comparaison de la vie épicurienne avec la vie des bêtes est ressentie comme dégradante, précisément parce que les plaisirs des bêtes ne satisfont pas la conception que les hommes se font du bonheur. Les êtres humains ont des facultés plus élevées que les appétits animaux, et une fois qu'ils en sont conscients, ils ne considèrent pas que quelque chose peut leur donner le bonheur si ce quelque chose n'inclut pas leur satisfaction. Donc au moins chez Mill, la distinction est préservée.
Hein. La distinction est préservée. Elle est même préservée entre les humains. Il y a des humains qui ont des plaisirs plus subtils que d'autres.
Il y a des humains qui sont des porcs.
Et il y a des humains qui sont des porcs. Oui, tout à fait. Chez Bentham, la chose est plus, j'allais dire, plus subtile. C'est-à-dire qu'il y a des droits qu'on peut donner aux animaux. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Sinon, une espèce de rapport, de fonction, de mise en rapport de plaisir et de douleur constamment, et de possibilité de changer constamment ces rapports-là. Donc, à partir du moment où vous pensez que plaisir et douleur sont véritablement le fond absolu de tout ce qui peut exister psychologiquement, sociologiquement, etc., vous n'avez plus de différence à faire entre les animaux et les hommes.
Le grand critère étant, et ça c'est un texte qu'on va entendre demain, peuvent-ils souffrir ?
Oui, c'est ça, mais ils peuvent souffrir, bien entendu. À partir du moment où ils peuvent souffrir, ils ont des droits. On ne peut pas les tuer n'importe comment, on ne peut pas les consommer n'importe comment, on ne peut pas les faire travailler n'importe comment. Ça va donner lieu d'ailleurs à toutes sortes de lois qui vont se distribuer en Angleterre.
De sorte que si on est fidèle au discours de Bentham, à l'arithmétisation des passions humaines chez Bentham, on peut aller jusqu'à paradoxalement faire valoir les droits des animaux, ce qui pose toute une série de problèmes évidemment.
Oui,
et en particulier, la question de savoir, on en revient à la question de savoir s'il n'y a pas une morale en jeu. Mais restons chez Mill, puisque c'est l'objet du jour, Jean-Pierre Clairaut. Est-ce qu'un tel problème se pose chez Mill ? Que dit Mill du droit des animaux par exemple ?
Écoutez, je n'en sais rien, je ne pourrais pas vous dire exactement.
Peut-être n'en parle-t-il pas.
Peut-être n'en parle-t-il pas, mais comme il a écrit 22 gros volumes de 500 pages, je ne sais pas exactement ce qu'il en pense. Simplement, il y a cette hiérarchie qui est extrêmement pesante. Mais ce qu'il faut, je crois, bien voir derrière ce problème-là, c'est pas tellement. Le problème de Stuart Mill n'est pas de savoir si les animaux ont des droits, alors que chez Bentham, c'est plutôt le problème. Le problème de Stuart Mill, derrière tout cela, c'est de savoir si le socratisme a raison contre les sophistes ou pas. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on peut défendre des valeurs qui soit en quelque sorte au-dessus de ce simple jeu des plaisirs et de douleurs. Ou alors, est-ce qu'il faut laisser raison aux sophistes, qui se font payer d'ailleurs pour cela, hein ? Est-ce que ces sophistes ont raison lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de valeur en soi, que ce sont plutôt les plaisirs et les douleurs qui seraient la mesure même des valeurs ?
Derrière cette idée-là, il y a l'idée pour les sophistes qu'il n'y a pas non plus de vérité. C'est un autre débat. À côté de l'égoïsme, ce qui rend la vie peu satisfaisante, c'est le manque de culture intellectuelle. Un esprit cultivé, et j'entends par là non un philosophe, mais un homme à qui sont ouvertes les sources du savoir et qui sait jusqu'à un certain point se servir de ses facultés, trouve des sources d'intérêt inépuisables dans tout ce qui l'entoure. Les choses de la nature, de l'art, les inventions de la poésie, les incidents de l'histoire, le passé de l'humanité, son avenir, tout peut l'intéresser. On peut, il est vrai, devenir indifférent à tout cela sans en avoir épuisé la centième partie, mais c'est parce qu'on regarde toutes ces questions sans intérêt moral ou humain et qu'on ne voit dans l'étude qu'un moyen de satisfaire sa curiosité. Rien ne s'oppose à ce qu'une culture d'esprit suffisante pour faire prendre de l'intérêt aux choses de l'intelligence soit l'héritage de quiconque naît dans un pays civilisé. L'homme n'est pas non plus nécessairement une créature égoïste, ne s'occupant que de ce qui peut se rapporter à sa misérable individualité. Les natures supérieures sont, même aujourd'hui, assez nombreuses pour donner une idée de ce que pourrait être l'humanité. Chaque être humain, à des degrés différents, est capable d'affections privées naturelles et d'intérêts sincères pour le bien public. Jean-Pierre Clairaut, dans ce texte de Mille, Mille fait valoir, donc il y a des pays civilisés, d'autres qui ne le sont pas, et surtout il dit ce que pourrait être l'humanité. Oui, on est, alors, il n'y a peut-être pas de transcendance, mais il y a quand même une destination de l'homme, il y a une tâche, un rôle qui est assigné à l'homme, qui repose sur le sentiment, franchement respectable, ce n'est pas nous qui allons dire le contraire, qu'il vaut mieux se cultiver que ne pas le faire.
Bien sûr, il y a cette idée de culture, il y a même cette idée de culture désintéressée. Vous avez très bien fait ressortir ce terme. C'était un des thèmes majeur de l'utilitarisme, de dire qu'il n'y avait pas d'action désintéressée. Il ne peut pas y avoir de sentiment désintéressé pour Stuart Mill. Tout sentiment est intéressé. Ça ne veut pas dire du tout pécuniairement intéressé, hein, mais il y a de l'intérêt, d'une certaine façon, dès que il y a une passion quelconque.
C'est la précision que vous apportez est essentielle. Ça veut dire qu'on sort du régime exclusivement pécuniaire, auquel on réduit ou on rabat l'utilitarisme en général.
On peut, si on a besoin de ramener des plaisirs à d'autres, réintroduire l'argent. Mais il n'y a pas, il y a évidemment un certain égoïsme, si on veut. Mais attention, je veux dire qu'il n'y a pas de plaisir désintéressé. Alors que chez Stuart Mill, il y a une affirmation constante du désintéressement. Il y a des plaisirs qui peuvent être désintéressés.
Et surtout, quand ils sont désintéressés, se soucient des autres. Parle de noblesse du plaisir et de souci des autres, comme si les deux étaient corrélatifs.
Curieusement, il va plus loin que Kant. Alors Kant ne demandait pas du tout qu'il y eût quelque chose de réellement désintéressé. Il dit simplement que la loi morale implique en quelque sorte ce désintéressement. Mais il ne dit pas que ça existe. Alors que Stuart Mill dit que ça existe.
Jean-Pierre Clairaut, pardonnez-moi, que reste-t-il de l'utilitarisme chez John Stuart Mill ?
C'est toujours la question que je me pose quand je lis Stuart Mill. Moi, je suis toujours désemparé. J'ai l'impression de lire sur une frontière qui, parfois, va du côté de l'utilitarisme et de l'autre côté, nous emmène vraiment très, très loin de l'utilitarisme. Alors, faut-il appeler ça un libéralisme ? Je ne sais pas. Est-ce que le libéralisme même ne vit pas de contradictions ? De valeur. C'est tout à fait possible. Mais au moins, alors, Stuart Mill serait vraiment un symptôme de ces espèces de divisions profondes du libéralisme. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. The starched white shirts, you will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in.
Encore et toujours, les pourceaux, c'est les Beatles cette fois-ci. Piggies, c'est également un avant-goût de l'émission de demain. Et voilà, les cochons sont partout. Vive John Lennon et Paul McCartney. Et bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
On va passer de l'utilitarisme à la tragédie,
des
pourquoi pas.
Des piggies aux tragédies. Oui, on parle de tragédie aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un petit livre qui ne doit surtout pas passer inaperçu. Bonjour Donatien Gros. En janvier dernier, l'École normale supérieure s'est associée à l'Odéon pour proposer des réflexions sur le thème « La tragédie, domaine public ?» On a pu y entendre de nombreuses interventions vraiment passionnantes. Pour ne citer que Michael Edwards est venu parler de la tragédie dans le théâtre de Shakespeare, Florence Dupont de la tragédie dans l'espace public antique, Olivier Py et la comédienne Dominique Blanc se sont demandé comment jouer, comment interpréter, comment mettre en scène un texte tragique. Et grâce à vous, Donatien Gros, on peut désormais lire le texte de ces interventions dans un volume qui sort ces jours-ci aux éditions de la Rue d'Ulm. Le volume s'appelle « Tragédie », au singulier et au pluriel, puisque le S est entre parenthèses. Et je suis heureuse d'en parler aujourd'hui, car en le lisant, j'ai compris à quel point le tragique, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas réconcilier, que ce soit deux personnes, deux idées, deux valeurs, vraiment le tragique c'est l'irréconciliable, il me semble, enfin, en tout cas on va en parler, à quel point le tragique était intéressant pour s'interroger sur ce qu'est la modernité. Il me paraît intéressant de s'interroger sur ce qu'est la modernité à travers l'idée même de tragique, Donatien Gros.
Oui, dans ce que vous dites, il y a un fossé qui est très marqué, qui est le fossé, au fond, entre les origines de la tragédie, entre l'Antiquité et aujourd'hui. Et c'est aussi le fossé entre deux conceptions différentes de ce que peut être la tragédie. La première conception, c'est une conception littéraire, au fond, une conception poétique, une conception théâtrale. C'est celle de la tragédie que l'on peut lire dans n'importe quelle collection, c'est aussi celle que l'on va voir représentée. Et de l'autre côté, c'est l'extension du domaine tragique. C'est l'extension du domaine de la tragédie plutôt au tragique. Et à cette notion qui est d'invention, au fond, assez récente, puisque c'est une notion qui a émergé très fortement, ouais, déjà présente sous forme d'adjectif dans la littérature grecque, mais elle a émergé très fortement au XIXe siècle. Donc ce que vous dites, c'est manifeste clairement qu'il y avait un problème, qu'il y a un problème de la tragédie, puisqu'on vit une époque terriblement tragique, le mot revient tout le temps, le terme tragédie lui-même s'est démultiplié et est employé au pluriel. Mais on vit une époque où il y a quand même très peu d'écrivains qui rédigent des tragédies. On en a pris un puisqu'il était invité par l'Odéon, c'était Howard Barker. Mais Howard Barker est un peu seul dans son domaine. Vous regardez, des auteurs de comédie, on en trouve. Des auteurs de drame, on en trouve.
Alors, est-ce qu'on peut définir déjà le drame et la tragédie? Comment est-ce qu'on distingue les deux?
Bien sûr. Deux choses l'une. D'abord, le drame, littéralement, le drama en grec, c'est ce qui se fait, ce qui se passe. Donc, de toute façon, toute action, tout nœud d'action, et peut être théâtral, peut être potentiellement drame. La tragédie, c'est une certaine forme de production théâtrale. Donc le drame pourrait être une catégorie beaucoup plus englobante, et du moins dans une vision antique, et la tragédie serait une forme théâtrale. Par ailleurs, il y a un deuxième problème, et c'est toujours ce problème des deux lectures qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que le drame, c'est aussi une forme théâtrale aujourd'hui. C'est la forme claudelienne. Il y a un drame claudelien. D'ailleurs, Olivier Py, qui est venu, dit lui-même qu'il n'est pas du tout quelqu'un passionné par le tragique, mais qu'il est passionné par le drame. C'est sa manière, qui serait une sorte de forme englobante qui rassemblerait à peu près tout. Et donc, on peut parler aussi du drame du monde, ce qui est d'ailleurs une autre extension, même si c'est moins présent, étonnamment, que la tragédie. On est plus tragique que nous sommes dramatiques. D'ailleurs, c'est intéressant le rapport entre l'adjectif dramatique et le drame, puisque ça montre bien que le drame est théâtral et est ce qui est théâtre. Pour revenir à la tragédie, oui, donc c'est à ce nœud qu'on a voulu s'intéresser, à ce problème de la tragédie et du tragique aujourd'hui, à tel point que j'ai pu, dans l'introduction, faire cette référence, limite un jeu de mots, tellement la distinction est simple, entre tragédie de la tragédie et tragédie du tragique. La première étant un rapport au théâtre, la deuxième étant un rapport au monde, si on veut. Et c'est ce que vous présentiez avec l'irréconciliable. Parce qu'il y a aussi un problème, qui est que la tragédie antique, c'est ce qu'écrit Jean Bollac et c'est ce qu'il a prononcé auparavant, ce n'est pas forcément ce que nous appelons tragédie. Par exemple, c'est ce que dit aussi Olivier Py. Eschyle, la lecture qu'Olivier Py a faite d'Eschyle, n'est pas du tout celle d'un auteur tragique au sens contemporain. Pour lui, Eschyle, c'est le dramaturge des happy endings. Ça se finit bien. Après tout, la trilogie de l'Orestie qu'il avait montée lors de sa première saison de l'Odéon, ça se finit bien. Et donc là, il y a un nœud très difficile qui est ce que dit Dominique Blanc aussi. Elle a joué Phèdre, qui est que ça prend tout, ça prend toute l'énergie. Qui est ce que dit George Steiner dans ce livre aussi, qui est qu'il y a une sorte de danse avec l'irréconciliable. Et donc, c'était une notion extrêmement piégée, pour ainsi dire, et à laquelle on devait s'affronter. Et on a essayé de s'y affronter de façon éclatée, en fait. Parce qu'on s'est dit, à la fin, on se dit que ça relève d'un plan. À l'origine, on a juste monté ça. Mais en y réfléchissant, on s'est dit, tout de même, on a cette notion qui est piégée, où, dans laquelle viennent se rassembler des éléments extrêmement différents, extrêmement divergents, Et comment l'approcher, sinon en rassemblant des propositions, des projets, des remarques, des notes de personnes issues de milieux différents, de propositions différentes. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la richesse du rapprochement entre l'école et le
voilà, et vous n'essayez pas de créer de manière factice une unité au sein de ces différentes lectures de la tragédie. Non. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le livre lui-même. Comment vous constatez vous-même, et beaucoup de textes dans ce volume le constatent, le fait que la tragédie soit de moins en moins théâtrale. C'est comme si la tragédie s'était dépossédée de sa dimension théâtrale pour finalement n'apparaître plus que comme tragique. Donc, est-ce que le terme de tragédie a encore un sens aujourd'hui? Et ma deuxième question qui est liée, pourquoi y a-t-il, puisque c'est, vous le constatez également et beaucoup d'intervenants le constatent, pourquoi y a-t-il des périodes qui sont plus propices à la tragédie que d'autres? Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment deux aspects dans la réflexion sur la tragédie dans ce livre. Un aspect qui proprement ontologique. Qu'est-ce que le tragique? En quoi la condition humaine est-elle proprement tragique? Et là, je renvoie à l'introduction de Monique Antosperber au début du livre. Mais également un aspect, une dimension beaucoup plus généalogique sur l'histoire de la tragédie et donc qui conduit à cette question-là. Pourquoi y a-t-il des périodes plus propices que d'autres à la tragédie? Donatien Gros.
Alors, à votre première question sur qu'est la tragédie aujourd'hui, deux choses. La première, c'est qu'effectivement... Je crois qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on a panthéonisé un certain nombre d'œuvres. Et on ne peut pas aller plus loin que ces œuvres dans la tragédie. On ne peut pas aller tellement plus loin que Racine et Bérénice, c'est ce que écrit Georges Taillon. On ne peut pas aller plus loin. Il y a une architecture, il y a une perfection de l'œuvre. Et dans cette manière-là, on ne peut pas dépasser. De même qu'on ne peut pas dépasser Proust dans le modèle de la recherche.
Je vous l'accorde.
Donc ça, c'est un... Et après, il a fallu qu'il y ait Céline après Proust et que faire après Racine. Ça, c'est le premier élément. Donc on ne peut pas aller plus loin en termes de poétique théâtrale. Deuxième élément, en termes de tragédie au sens commun du terme, on pourrait dire que les tragédies ont tué la tragédie. C'est-à-dire que la pluralité de ce mot qu'on utilise dans les journaux quotidiennement, il y a une tragédie dans tel pays, il y a une tragédie dans tel autre, et cette transmission de l'information a rendu le rapport au concept de tragédie, à sa puissance,
elle a épuisé biaisé. Son sens, en
c'est
fait.
Ça, ouais. Biaisé, a rendu son rapport à sa puissance biaisé. Ça, c'est un premier élément. Et ça me conduit à répondre à votre deuxième question, puisque, par définition, s'il y a des tragédies et qu'il n'y a plus deux tragédies, eh bien, c'est aussi un lien à l'époque. Et c'est un lien à l'époque qui est aussi, mais ça, c'est un truisme, mais c'est un truisme que Georges Steiner a fondé en 1961 avec son livre, c'est que c'est un rapport à l'époque qui
la
est...
La mort de la tragédie.
Hein, c'est ça, la mort de la tragédie en 1961, effectivement. Et qui est un rapport... à une époque qui n'est plus religieuse qui évolue, qui en tout cas dans la civilisation occidentale est de moins en moins religieuse où s'origine la tragédie est de moins en moins religieuse et il n'y a plus le terreau pour le spectacle tragique comme œuvre totale et comme œuvre comme cérémonie en un sens.
C'est ça, donc notre rapport à la tragédie est tributaire du contexte historique dans lequel nous vivons, mais est-ce qu'on peut en dire du même du tragique lui-même?
Ça, non. C'est justement ça qui est très intéressant. Et c'est que nous vivons une époque où le concept de tragique est devenu fondamental et a tout envahi. C'est-à-dire qu'il a, jusque l'art contemporain, pour qui c'est devenu extrêmement important. Il y a toute une série d'expositions et Catherine Grenier le rappelle dans ce livre.
Catherine Grenier qui est une des intervenantes, qui a été une des intervenantes à ces rencontres et dont on retrouve le texte ici dans ce livre. Donc je rappelle, le titre s'appelle Tragédie, avec un S entre parenthèses. Et on trouve ça aux éditions de la Rue d'Ulm. Merci beaucoup, Donatien Gros.
Voilà, vive l'art contemporain. Sous les sciences sociales, la guerre, c'est le pavé dont vous êtes flanqué, Adèle.
Et voilà,
pour
après la tragédie,
émission.
La sociologie et la sociologie du genre. Les éditions de la Découverte publient ces jours-ci un ouvrage collectif qui propose des relectures critiques des travaux de philosophes et de sociologues à travers la question du genre. Le but, c'est de montrer que les recherches sur le genre ont été en dialogue constant avec les grands cadres théoriques et les courants de pensée des sciences sociales. Les auteurs proposent donc de relire la pensée de Foucault, de Lévi-Strauss, de Max Weber ou encore de Bruno Latour dans la perspective du genre pour essayer de mettre au jour les impensés et les présupposés sexués des concepts et catégories d'analyse de ces auteurs, alors qu'eux-mêmes revendiquent une validité universelle. Donc la question est légitime, d'autant plus qu'elle fonctionne à double sens, puisqu'il s'agit également de se demander comment ces concepts, le concept de sujet, de famille, de privé, même de structure, donc comment ces concepts en question peuvent nous aider en retour à penser les inégalités de sexe, la constitution des identités et les enjeux de la sexualité dans nos sociétés. En tout, ce sont les travaux de 34 auteurs qui font ici l'objet d'une relecture critique, précise et pertinente. Donc ça s'appelle Sous les sciences sociales, le genre, relecture critique de Max Weber à Bruno Latour, et on trouve ça aux éditions de la Découverte.
Oh, j'ai lu La guerre et c'était le genre, c'est pire. évidemment. On en revient d'ailleurs à la question qu'on se posait tout à l'heure, Jean-Pierre Clairaut, entre description et normativité. L'utilitarisme, les cochons, la tragédie, l'irréconciliable et le genre, donc, c'était le bonheur du jour. Alors, sur Internet, vous nous retrouvez quand vous voulez. Vous pouvez télécharger les émissions de la semaine, je le dis tous les jours, écouter en ligne les émissions du mois, et vous retrouverez aussi une bibliographie où vous trouverez notamment la référence aux considérations sur le gouvernement représentatif de John Stuart Mill dans la traduction de l'ami Patrick Savidan. C'est la suite demain de cette semaine sur l'utilitarisme, une émission qu'à titre personnel je suis très impatient de vous proposer. On parlera de Peter Singer en partant de Bentham, de la libération animale à la zoophilie en passant par l'infanticide. Ce sont les réjouissances du lendemain à demain donc, de 10h à 11h comme tous les jours. 10h59 et 23 secondes sur France Culture dans un instant. Question d'époque.